Musicopolis. Forêt, Paris, 1896. Pour un compositeur du XVIIIe ou du XIXe siècle en France, l'opéra est la voie royale pour se faire connaître et faire carrière. Mais voilà, à l'époque de Fauré, deux problèmes se posent. D'abord, la diffusion à l'Opéra de Paris est pratiquement bloquée. On n'y joue plus que les mêmes et éternels ouvrages de Gounod, Bizet ou Massenet. Beaucoup s'y sont cassés les dents, même Berlioz, même Saint-Saëns, par ailleurs musicien reconnu. Et deuxième problème, la veine d'un compositeur est plus ou moins adaptée à une grande scène lyrique. Fauré, lui, est davantage à l'aise dans un cadre plus intime.
Les donneurs de sérénades et les belles échangent des propos fades sous les ramures chanteuses. C'est dire si c'est amour, et c'est l'éternel qui est tendre, et c'est d'abus qui pour main te crée, vive vers tendre. Leurs corps de veste de soie, leurs longues robes à queue, leur élégance rochois, et leur les ombres bleues tourbillonnent dans l'extase d'une lumière rose et grise, et la mandoline jase parmi les frissons de brise. Les donneurs de sérénades et les belles écoutées change des propos fades sous les ramures chanteuses.
Dans le Figaro du 9 janvier 1896, sous la rubrique Salon, on peut lire cet encart. Musique intime, dimanche dernier, chez la princesse Edmond de Polignac, dans son hôtel de la rue Cortambert. La comtesse de Guerne a tenu tout le monde sous le charme de sa splendide voix. Son succès a été partagé par les artistes qui ont exécuté un beau quatuor de M. Gabriel Fauré. Dans ce cénacle d'élite, comtesse Potocki, marquise de Monténard, M. et Mme Robert de Bonnières, M. et Mme Paul Soège, Messieurs Haas, Forain, Helleux, le comte Henri de Ségur, etc. Le 6 janvier 1896, Fauré écrit à la princesse Edmond de Polignac. Entre parenthèses, son prénom n'est pas Edmond, bien sûr, mais Winaretta, diminutif Winnie. Edmond, c'est son mari. Je cite. « Chère princesse, je veux vous remercier encore pour la belle soirée d'hier. Je vous suis sincèrement reconnaissant. Tâchez que je vous voie souvent. Votre esprit me fait du bien, même quand vous vous moquez de moi. Et vous me donnez le désir de travailler. » Pour vous deux, mes sentiments les plus dévoués et affectueux. Gabriel Fauré. La princesse de Polignac, que Fauré remercie chaleureusement de l'avoir accueillie à sa soirée, est l'une des nombreuses femmes du monde parisienne qui tiennent salon à cette époque, ce qui est d'un grand secours pour les musiciens qui voient ainsi des débouchés pour leur musique. Pour Fauré, qui végète dans son poste de maître de chapelle de la Madeleine, c'est dans les salons qu'il peut faire entendre ses œuvres et trouver une reconnaissance qui, même si elle ne vient pas d'un large public, lui est tout de même indispensable. Les salons sont nombreux à Paris. Il y a ceux des dames de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie, souvent mécènes, en particulier ceux de Marguerite de Saint-Marceau, la comtesse Gréful, de la princesse de Polignac, dont Fauré est un habitué. D'autres salons se tiennent chez des personnalités de la vie musicale, des compositeurs de renom. Saint-Saëns, par exemple, a longtemps ouvert le sien le lundi. Il reçoit ses amis, peintres et musiciens. C'est là que les jeunes compositeurs vont pouvoir essayer leurs œuvres, les faire entendre aux camarades et collègues, un galop d'essai en quelque sorte avant d'affronter une salle de concert. Ou bien au contraire, l'occasion de faire réentendre une œuvre donnée auparavant au public. Thank you. C'est Saint-Saëns, l'ami de Forêt et son aîné de 10 ans, qui l'introduit dans le salon de Pauline Viardot au printemps 1872. Pauline, qui a été une très grande chanteuse, créatrice de nombreux rôles à l'opéra, est alors retirée de la scène et elle se consacre à l'enseignement et à la composition. Elle reçoit, elle aussi, beaucoup d'artistes d'horizons divers. Et chez elle, Forêt rencontre Gounod, Renan, Georges Sand, Flaubert et aussi Marianne, sa fille, dont il tombe éperdument amoureux. C'est dans le feu de cet amour qu'il compose sa première sonate pour violon et piano. Il y travaille en particulier à l'été 75 et à l'été 76 chez Camille et Marie Claire, des amis très chers, dans leur maison près du Havre. Des amis qui l'ont accueilli depuis longtemps au sein de leur famille, aussi bien dans leur salon musical à Paris pendant l'hiver que l'été en Normandie. Ce sont eux qui auront droit à la première audition privée de la sonate. Forêt est tout à fait à l'aise dans les salons. Pendant sa jeunesse, il a beau être souvent gêné financièrement et ne pas vivre sur le même pied que ceux qui le reçoivent, il a une certaine nonchalance et, malgré sa timidité, un naturel agréable qui lui facilite les rapports humains. Il s'est fait beaucoup d'amis musiciens, grâce à Saint-Saëns, et il a participé à la fondation de la Société Nationale de Musique, juste après la guerre franco-prussienne de 70. Il est même le secrétaire de la Nationale, comme on l'appelle. Nationale qui lui adresse un blâme pour sa lamentable inexactitude. Quoi qu'il en soit, Forêt participe souvent comme pianiste aux séances de concert, et c'est dans ce cadre qu'il donnera la première audition publique de sa sonate pour violon. C'est un grand succès. L'œuvre sera redonnée plusieurs fois, en privé et en public, avant de paraître chez l'éditeur Breitkopf à Leipzig. Mais le genre le plus prisé à la Nationale et dans les salons est sans doute celui de la mélodie.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches. Et quand vos yeux si coulables brisants soient doux. Thank you.
Les relations de Fauré avec les dames des salons ne se limitent pas à leur demeure parisienne. Plusieurs d'entre elles sont des mécènes avisés et elles font en sorte d'adoucir la vie de leurs musiciens préférés en leur passant commande ou bien en les recevant dans l'une de leurs villégiatures. Ainsi, la princesse de Polignac, qui s'appelle alors Winaretta Singer, invite-t-elle Fauré et quelques amis peintres à venir passer quelques vacances à Venise, dans le palais qu'elle loue là-bas, la Casa Volkoff. « Mais quel pays !» écrit Fauré. « Et quelle existence que la nôtre ici ! Divine serait faible. Mettons que le mot juste n'existe pas. Il n'existe pas davantage pour exprimer toute mon admiration et presque un peu plus aïe que m'inspire notre adorable hôtesse. » Après avoir détaillé le quotidien de son séjour, Fauré poursuit. « Le vrai du vrai, c'est que je jouis d'un bon congé, que je me porte comme jamais et que je m'emplis les yeux de merveilles et la tête de souvenirs charmants. Je manque certainement de la tranquillité nécessaire pour le travail et la toute petite chose que j'ai esquissée sur des vers de Verlaine pourra peut-être devenir bien quand j'aurai retrouvé mon coin de Paris et la paix de ce foyer où j'ai des petits que je voudrais bien embrasser. » En fait, de ce séjour, Fauré rapportera les ébauches de ce qui va devenir le recueil des mélodies dites de Venise sur des poèmes de Verlaine et qu'il dédie à Winaretta. L'année suivante, c'est auprès d'une autre égérie qu'il écrira un autre cycle verlainien, La Bonne Chanson.
Puisque l'aube grandit, puisque voici l'aurore, puisqu'après m'avoir fui longtemps, l'espoir veut bien revenir vers moi qui la peine et la pleure. Par toi conduit, ô main où tremblera ma main, marche droit, que ce soit par des sentiers de mousse, ou que rocs et cailloux encombrent le chemin. Et comme pour bercer les lenteurs de la route, je chanterai des airs ingénus. Je me dis qu'elle m'écoutera sans déplaisir, sans doute. Et vraiment, je ne veux pas d'autre paradis.
Emma Bardach, épouse d'un banquier parisien, très bonne musicienne et chanteuse, n'est pas seulement la dédicataire du cycle La Bonne Chanson de Fauré, elle en est l'inspiratrice. 10 ans après, elle sera celle de Debussy qu'elle épousera. Mais restons-en à Fauré. Il faut revenir un peu en arrière pour parler de la vie sentimentale du compositeur, du moins ce qu'on en connaît. Très amoureux de Marianne Viardot, il a été fiancé avec elle jusqu'à ce qu'elle rompe les fiançailles à quelques semaines du mariage, ce qui a plongé le jeune homme dans un chagrin intense. Quelques années plus tard, il épouse Marie Frémier, fille du sculpteur Emmanuel Frémier. Mais ce n'est pas un mariage d'amour et Fauré, qui est, dit-on, très séduisant, a un certain nombre d'aventures qui sont parfois des liaisons durables. En tout cas, à l'été 92, c'est Emma Bardach qui lui inspire, comme le dit son biographe Jean-Michel Nectou, ce flot impétueux, cette allégresse folle, cette joie, cette tendresse, le sentiment bouleversant d'un puissant bonheur.
L'hiver a cessé, la lumière est tiède et danse du sang. Clair. Il faut que le cœur le plus triste cède à l'immense joie et passe dans l'air. J'ai depuis un an le printemps dans l'âme et le vert retour du doux floréal ainsi flamme entoure une flamme, mais de l'idéal sur mon idéal.
Pendant l'été 1892, chaque jour, après son service à la Madeleine, Fauré rejoint sa femme et ses enfants qui passent les vacances dans la maison de ses beaux-parents à Bougival. Tout près, les Bardacs sont installés dans un charmant pavillon du XVIIe siècle. Gabriel compose et tout de suite il fait chanter ses esquisses à Emma. Le compositeur Roger Ducasse raconte « Chaque soir, Fauré se rendait au château pour montrer à son interprète le travail de la journée. Et souvent, bien souvent, elle le renvoyait pour qu'il corrigeât. J'ai la première façon de la lune blanche. Elle avait génialement raison. Elle lui fit recommencer des mesures entières. » Quant à Fauré lui-même, il déclare longtemps après « Je n'ai rien écrit jamais aussi spontanément que la bonne chanson. Je dois ajouter que j'y ai été aidé par une spontanéité de compréhension au moins égale de la part de celle qui en est restée la plus émouvante interprète. Le plaisir de sentir vivre et s'animer ces petits feuillets au fur et à mesure que je les apportais, je ne l'ai plus rencontré jamais. »
J'ai presque peur en vérité, tant je sens ma vie enlacée à la radieuse pensée qui m'a pris l'âme l'autre été. Dans votre image à jamais chère habite en ce cœur tout à vous, ce cœur uniquement jaloux. Si franchement vous le dire, à penser qu'un mot, qu'un sourire de vous est désormais ma loi, et qu'il vous suffirait d'un geste, d'une parole ou d'un clin d'œil pour mettre tout mon être en deuil de son illusion céleste. Je ne veux vous voir. L'avenir dut-il m'être sombre et fécond en peine sans nombre qu'à travers un immense espoir plongé dans ce bonheur suprême de me dire encore et toujours en dépit
presque peur en vérité, extrait de la bonne chanson de Gabriel Fauré sur un poème de Paul Verlaine, Suzanne Danco soprano avec Guido Agosti au piano. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Jean-Louis Deloncle pour le mixage.